si vous avez des questions avant qu'on continue ou qu'on reprenne. Oui.
Vous avez dit ce matin que le serpent n'était pas en train de mourir. Comment apparaît la parole du serpent ?
Ça m'est pas dit. Enfin, dans le texte de la Genèse, ça m'est pas dit. Ensuite, ce qui est très vrai, c'est que ce qui regarde le problème du démon dans toute la théologie, dans toute l'écriture, c'est un des textes importants. C'est pas le texte le plus important, c'est pas même le texte le plus théologique, mais c'est un texte important. Effectivement, de voir que il y a quelqu'un d'autre qui est présent et qui est capable de enfin, avec lequel il y a un dialogue. Père Philippe dit durement, c'est le premier dialogue de l'écriture, c'est entre le serpent et Ève. Vous pouvez vous mettre devant, hein, il y a encore des... Le serpent est à la fois, familier, il fait partie de la création, c'est-à-dire qu'il est du côté d'Adam et Ève. Et en même temps, il semble avoir une autorité, quand on regarde le texte, il semble avoir une autorité sur eux, ou un certain pouvoir sur eux. Il ne se conduit pas comme une bestiole des champs, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que le symbolisme est très intéressant, parce que il a quelque chose d'inférieur à eux, ça fait quand même partie des... ça fait pas partie des animaux les plus nobles. Donc il y a une certaine bassesse, pas négative, mais dans le serpent. En même temps, il a une parole qui le manifeste comme supérieur par un certain côté à eux, et comme se servant de sa supériorité de manière négative. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'air d'avoir une longueur d'avance par rapport à Ève. C'est-à-dire qu'il a déjà pas mal réfléchi à la question de l'interdiction. Il a beaucoup réfléchi à la question de l'interdiction. Manifestement, ça l'a assez marqué, et il est capable d'y avoir suffisamment réfléchi pour s'en servir de manière négative. C'est-à-dire qu'il subvertit l'interdiction, il souligne l'interdiction. Quand on regarde bien le texte, on voit la différence entre ce que Dieu a dit, l'interdiction que Dieu a donnée de toucher de l'arbre du jardin, et la manière dont le serpent l'interprète, et même la manière dont le serpent le rapporte. En fait, il déforme très subtilement tous les termes, en soulignant la dimension de l'interdiction dans sa formule. C'est-à-dire qu'il met en lumière le fait que c'était interdit. Alors que ce que Dieu avait mis en lumière vis-à-vis d'Adam, c'est que c'était un acte de confiance. Et l'astuce, précisément, du dialogue du serpent, c'est de souligner le fait que ça n'est pas permis. Donc je dirais, c'est là qui... Bon, puis en plus, c'est très astucieux, parce qu'il prêche le faux pour savoir le vrai. Puis il pose des questions. Il a une manière intéressante de... C'est astucieux, c'est pas vraiment intelligent quand on regarde de près, parce qu'il ne veut rien savoir. En fait, la seule chose qu'il cherche, c'est à arracher un secret et à rentrer dans une relation qui ne le regarde pas.
La séparation des bons anges et des mauvais anges.
Ça, c'est le problème. C'est pas, au sens strict, c'est pas exactement le problème de la création. C'est le problème de le commencement de l'économie divine. Là-dessus, le théologien est pauvre. Pourquoi ? Parce que il y a peu de textes dans l'écriture. Il y a les textes les plus précis, c'est la parole de Jésus quand même. Quand il dit, il est homicide dès le commencement et père du mensonge. Ça, c'est les textes les plus précis qu'on ait, qui sont de la bouche même du Christ. Quant à ce qu'est le démon, c'est ça. Il le définit comme homicide, c'est-à-dire comme... Ça ne nous est pas dit. Ça ne nous est pas présenté comme ça.
Est-ce qu'il n'y a plus d'espérance du tout dans le serpent ? Est-ce qu'il en est encore un peu capable ?
Eh bien, s'il est homicide dès le commencement, et père du mensonge, alors, au point de vue de l'écriture, hein, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, c'est le théologien qui dira, c'est impossible, c'est pas possible qu'il y ait une espérance. Ça, c'est théologiquement, parce que quand je réfléchis sur ce que c'est que l'esprit comme tel n'a une capacité de se reprendre que parce que pour nous, il est lié à la matière. Ça, je dirais, alors, c'est une réflexion sur ce que c'est que l'esprit comme tel. C'est que ce qui nous permet de recommencer sans cesse à nous relever, c'est le fait qu'on est lié à un corps et qu'on est dans un devenir matériel. Et donc notre liberté n'est pas fixée par chacun de nos actes. Notre liberté, elle est grandissante. Alors que l'esprit comme tel n'a pas la... Enfin, l'esprit n'est pas dans un devenir comme tel. Et donc un choix de l'esprit comme esprit, je dirais, ne se reprend pas. Alors ça repose sur une analyse, je dirais, alors pour le coup, qui présuppose une analyse philosophique de ce que c'est que l'esprit comme tel. En dehors, ça, je dirais, c'est le regard un peu froid du théologien. Hein. C'est qu'au fond, il fait confiance à ce qui est. Et quand il regarde ce qu'est l'esprit comme tel, il est obligé d'affirmer qu'un être purement spirituel, qui choisit délibérément, parce qu'il ne peut pas être tenté, un esprit n'est pas tenté, ça n'a pas de sens. Mais je veux dire, tout problème de l'esprit, c'est qu'on projette sur ce que c'est que l'esprit, ce que nous on vit humainement. Comme on projette sur les animaux, ce qu'on ressent humainement. Mais je dirais, il n'y a pas... Ça n'existe pas les sentiments du côté de l'esprit. Les sentiments, c'est humain. Le fait de pouvoir se tromper, c'est humain. C'est pas de l'esprit comme tel. Le démon se trompe pas, il veut se tromper. Oui, c'est là-dessus avec la théologie, effectivement, de parce que c'est Origène qui au fond essaiera de dire ben voilà, d'introduire une espérance. Mais c'est vrai que il faut pouvoir la justifier. Origène il la justifie, il peut pas la justifier. Oui. 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 On est le tout complexe avant de devenir le tout compliqué. Non, parce qu'on est compliqué parce que la complexité est cassée. Oui. À l'image de Dieu ? Mais précisément parce que la complexité, c'est autre chose que la complication. La complexité, quand elle est ordonnée, quand elle implique un ordre, elle est la manifestation dans la créature de la simplicité de Dieu. La simplicité de Dieu, c'est pas la simplicité du point, vous voyez, c'est pas une simplicité idéale, la simplicité de Dieu. La simplicité de Dieu, c'est pas non plus celle de l'enfant. Plus que ça, c'est le fait que tout ce qu'il est, il l'est dans plus que dans l'unité, plus que dans l'unité encore. C'est sa manière, c'est presque sa manière d'être personnelle, la simplicité. Il n'y a aucune dualité en Dieu. Il n'y a aucune différence en Dieu. Alors, la complexité, on le reverra tout à l'heure, hein, parce que il y a une question théologique sur la création qui est de savoir d'où vient la multiplicité des créatures. On est multiple. Et donc on est complexe. Mais la complexité, elle peut être là pour manifester la grandeur de la simplicité. Une symphonie, c'est pas compliqué. C'est complexe. Alors c'est vrai, le problème, c'est quand la complexité, elle est désordonnée. Alors là, ça donne la complication, ça c'est vrai. Alors là, on devient compliqué. Et dit l'écriture est malade. Il y a un texte d'écriture qui dit le cœur de l'homme est compliqué et malade. Ça, c'est lié à la chute. Et la ressemblance, elle se fait à travers la complexité. Mais elle se fait aussi, il n'y a pas que la complexité en nous. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une certaine simplicité. Et là où la simplicité en nous est la plus grande, c'est l'intelligence contemplative et la volonté aimante. D'accord ? Donc d'une certaine manière, on est à l'image de Dieu par l'intelligence contemplative et la volonté aimante, mais on l'est aussi par le corps, qui lui n'est pas simple, et qui complexifie la personne. L'intelligence et la volonté, c'est ce qu'il y a de plus simple en nous. D'accord ? Et donc ça, en ça, on est reflet de Dieu comme lumière et comme amour. D'accord ? En ça, on est à l'image de Dieu. La grande question, qui est une question qui n'est pas simple, parce que c'est vrai que là-dessus, la théologie n'a pas toujours assez creusé, c'est en quoi est-ce que le corps de l'homme est image de Dieu ? C'est tout le problème de la création. Il n'est pas dit personne humaine ou esprit incarné, il les créa à l'image de Dieu. il est dit homme et femme. Donc en quoi est-ce que le corps ajoute quelque chose à l'intelligence et à la volonté pour être image de Dieu? Ça, c'est pas simple. C'est tout problème de la fécondité. En quoi est-ce que la fécondité et en elle la complémentarité entre l'homme et la femme sont image de Dieu? Et est-ce qu'ils sont image de Dieu en tant qu'il est créateur ou est-ce qu'ils sont image de Dieu en tant qu'il est Trinité? C'est pas simple. Autrement dit, est-ce que le fait que le corps, que la matière, que l'esprit soit uni à la matière, et donc qu'il y ait cette complexité, est-ce que c'est pour être à l'image du mystère trinitaire, ou est-ce que c'est pour être à l'image de la simplicité de Dieu? Il semble que ce qui soit le plus à l'image de la simplicité de Dieu, pour le coup, c'est l'ange. C'est l'ange parce que l'ange, il est esprit. C'est en ça qu'il a quelque chose de supérieur à nous. Il est contemplatif sans problème. Enfin, sauf quand il a renoncé à sa contemplation. Alors que nous, notre contemplation, elle est assez lente et pénible. Et notre amour aussi. Alors ça, c'est bien. Les théologiens, les pères sont pas tous d'accord là-dessus. C'est l'icône, hein, l'image. Ils disent l'icône, c'est l'aspect créé précisément. Et la ressemblance, c'est l'aspect de la grâce. Je ressemble à Dieu, ça veut dire je suis de la même famille que Dieu par la grâce. Comme un père ressemble à son enfant. Un enfant ressemble à son père. Et un père ressemble à son enfant. Alors que l'image, c'est l'aspect créé. Mais on n'est pas obligé de le regarder que comme ça. Oui, on pourrait dire aussi, on est image par l'esprit et ressemblance par l'esprit uni au corps. Ça, c'est l'interprétation de l'écriture. Elle a des sens qui sont pas nécessairement... L'ange Gabriel ne nous apparaît pas chaque fois qu'on a des problèmes d'interprétation. Donc, on peut dire l'un et l'autre. Oui.
Oui. Dans sa lumière et son amour. Oui. Alors, où trouve sa place la charité? Je comprends pas.
Ben, la charité, elle est dans la charité.
Pour moi, l'intelligence, c'est contradictoire avec.
Avec la charité?
Avec l'amour.
Oui. Ah non, pas du tout, non. Ben, j'en peux rien, ça fait partie de la création de Dieu. C'est même ce qu'il y a de plus noble en moi. Je parle pas de la raison, hein. Il faut peut-être préciser ce qu'on appelle intelligence. Hein. Oui. Quand je parle de l'intelligence, je parle pas de la raison. Donc je ne parle pas de la logique, je ne parle pas non plus du savoir. Ça, c'est pas l'intelligence. Oui, mais l'intelligence du cœur, c'est métaphorique. Parce que le cœur, c'est un organe, le cœur. Mais donc j'essaie d'être précis. L'intelligence, comme telle, c'est la vitalité. C'est ce qu'il y a de vital dans l'homme et qui lui permet de communier au réel. Ça, c'est pas l'amour. C'est donc dans la personne humaine sa capacité de connaissance, c'est-à-dire sa capacité d'accueillir la réalité comme elle est et de la rencontrer.
Oui, mais ceux qui existent et qui n'ont pas l'intelligence.
Mais tout le monde a l'intelligence. Tout le monde ne peut pas l'exercer.
Il y en a beaucoup qui sont privés du contact avec le réel.
Oui, non, jamais, sinon on meurt instantanément. Ils en sont. Le contact avec le réel peut être brouillé. Le contact avec le réel peut être brouillé. Et il peut ne pas avoir l'exercice de l'intelligence.
Oui.
Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'exercice de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que l'intelligence n'est pas présente, sinon ils ne pourraient pas avoir la foi.
Mais justement,
Si, bien sûr, un handicapé mental, il peut tout à fait avoir la foi.
Un handicapé mental, oui, mais un grade
altère. Eh bien, il peut tout à fait avoir la foi. Mais oui, mais l'intelligence, elle est infiniment plus profonde que ce que je vois. Elle n'est pas de l'ordre du visible. Je ne discerne pas la présence de l'intelligence à l'extériorité. L'aspect spirituel de l'homme, il n'est pas visible. Or, je ne vois que le visible. Donc avant que je puisse dire que quelqu'un n'a pas l'intelligence, il faut que je l'ai rejoint dans ce qu'il y a de plus profond en lui et que j'ai rien trouvé. Ben précisément, il y a une identité dans leur source. L'intelligence, elle coïncide avec l'âme dans sa source. Et la volonté, c'est la capacité d'aimer. On appelle le cœur métaphoriquement, niveau philosophique, c'est ça ce qu'on appelle la volonté. Mais même chose, je peux avoir une volonté sans pouvoir l'exercer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Et c'est une capacité, l'intelligence. C'est-à-dire que la soif de la lumière, elle existe même si, chez celui qui n'en a pas conscience. Ben voilà, ben, donc l'intelligence est présente. Des fois, l'intelligence n'apparaît qu'à travers la soif. Mais des fois, elle apparaît bien plus fortement à travers la soif qu'à travers le raisonnement. Oui, c'est pour ça que c'est ça ce que j'appelle l'intelligence. C'est pour ça que je dis c'est ce qui est à l'image de Dieu en moi. C'est ce que les Grecs appelaient l'étincelle divine d'intelligence. C'est la noblesse contemplative de l'homme, mais qui est pas du tout nécessairement liée à sa raison. Alors ce qui est très vrai, c'est que l'intelligence n'aurait aucune capacité de développement sans la grâce, dans certains cas. Mais, par exemple, la foi, la grâce, elle est reçue dans l'intelligence et la volonté.
Mais est-ce que l'intelligence, comprise au sens où vous l'expliquez, peut exister sans la raison, justement ?
Bien sûr. Bien sûr.
Ben oui. Puisque...
Bien sûr. Bien sûr. La preuve, c'est que, précisément...
Ben oui, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi il faut fonder les choses de la théologie dans la philosophie ? On peut aller directement.
Non, non, parce que en théologie, il faut que je découvre ce que c'est que l'intelligence humainement. Sinon, je ne sais pas de quoi je parle. Quand Jésus me dit « Ô homme sans intelligence », c'est dans la parole de Dieu, ben, il faut que je comprenne ce qu'il me dit. Ben voilà, et donc pour comprendre, pour le comprendre, c'est pas en regardant l'écriture que je vais comprendre. C'est en allant regarder qu'est-ce que c'est chez moi l'intelligence. Alors vous me direz, si j'en ai pas beaucoup, c'est difficile de voir ce que vous savez. Parce que ce que Jésus veut dire, c'est pas... Quand il dit aux hommes sans intelligence, ça veut pas dire qu'il n'avait pas l'intelligence, mais qu'il est incapable de l'exercer. Mais ce que je dis, c'est que le Christ me renvoie à ma connaissance humaine. Et il m'oblige à une connaissance humaine. Et il ne la supplée pas, quand il peut ne pas la suppléer. Il me réclame une coopération, c'est-à-dire que il me veut intelligent pour lui si j'en suis capable. Oui, et puis après, d'accord, oui.
C'est ce matin, ce qui m'a un peu fait tilt, c'est ce je suis. Et à un moment donné, j'ai entendu je suis au sens du verbe suivre, en fait, au sens du verbe être.
Oui, tout à fait, oui. Au sens du verbe être. Oui.
Et bien sûr, c'était évident, mais oui. Je ne sais pas pourquoi, quelque part.
Non, c'est pas je suis.
Néanmoins, c'est le même mot.
Oui, oui.
Est-ce que ça recouvre une réalité?
Oui, mais ça c'est pour le coup, ça c'est la grâce. Le fait de le suivre, ça c'est le mystère de la grâce. Parce que, non, c'est vrai, le thème, c'est tout le thème de l'évangile. Hein.
On me dit toujours suivez le Christ.
Oui, ça c'est la grâce.
Alors, mais si on essaye, je veux dire, en même temps, même au titre simplement des faits, je veux dire, il semble que. On ne puisse jamais le faire parce que sinon on se heurte à quoi, une espèce d'orgueil qui fait que ben, on sait bien qu'on ne suit pas.
Oui, ça je suis d'accord. C'est vrai que la ressemblance, la grâce, elle est de l'ordre de la vocation. Je suis appelé à le suivre. Je ne le suis pas par moi-même. Mais ça, c'est la grâce. Oui, là, je ne suis pas du côté de la création. Le fait de le suivre, c'est qui est tout le thème de l'évangile. Dans l'évangile, Jésus marche. Tout l'évangile, Jésus marche, dans les trois évangiles. Et la grande manière d'être disciple, c'est de le suivre. Mais ça relève pas de la. Ça relève d'une réflexion sur la grâce, et sur la vocation, et pas d'une réflexion sur la création. La réflexion sur la création, elle regarde mon être. Alors que la réflexion sur la grâce, elle regarde mon agir. Pour l'instant, j'essaye de demeurer là, dans un premier temps. Oui.
Oui. Donc, c'était la première conférence. Hein. On a dit que Dieu nous a créés totalement libres.
Oui.
Jusqu'à ce qu'on puisse même le refuser et même choisir délibérément notre mal.
Tout à fait.
Or, aujourd'hui, on a de temps en temps du libéralisme et du danger.
Le libéralisme, c'est une doctrine économique, le libéralisme.
Oui, mais il y a aussi le libéralisme philosophique.
Non, il est... Non, il est devenu philosophique, mais il a commencé par être politique. Vous voyez, ce qu'on appelle, ou bien vous parlez de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, mais ça, c'est pas du libéralisme. Le mot libéralisme, il apparaît, on l'utilise peut-être avant, mais il entre surtout en philosophie par l'aspect politique. Alors, si vous voulez dire que tout dépend ce que vous mettez derrière, qu'est-ce que vous appelez un libéral? Oui.
Et un deuxième bien
qui est un bien apparent,
un mal, mais qui apporte premièrement un bien et qui après nous amène dans le mal.
C'est ce qu'on appelle un bien apparent.
Voilà. Bon, style, bon, par exemple, les institutions politiques d'aujourd'hui proposent des lois qui
sont bien immédiatement et mauvaises à long terme.
Qui ne sont pas forcément des biens,
oui,
mais
oui,
qui, parce qu'elles sont légalisées,
oui, oui. Donc vous voyez bien qu'il y a une question politique derrière.
Oui, mais bon, alors, une question politique peut-être.
Non, mais c'est, donc ça veut dire que Dieu n'est pas libéral dans sa création, mais dans son gouvernement. Vous voyez ? Là, je parlais de la création. Je disais, Dieu me crée libre et il me crée librement. Oui. Ensuite, comment est-ce qu'il me laisse exercer ma liberté ? Ça, c'est le problème du gouvernement divin. Alors, est-ce que le gouvernement divin de Dieu est royal, démocratique, aristocratique, ou libéral ? Ou socialiste ou communiste, ça c'est une bonne question. Même pas, non. Parce que c'est précisément pas le pouvoir qui est premier chez lui. Mais ce qui est très vrai, c'est que Dieu me laisse à ma liberté. Ça c'est très vrai. C'est-à-dire que Dieu ne me traite pas que comme un enfant. Alors ça, dans ce sens-là, oui, si c'est ça ce qu'on appelle le libéralisme, ça d'accord. Dieu ne me traite pas que comme un enfant, c'est-à-dire qu'il ne me dicte pas le bien et le mal. Il me l'indique de manière générale, il m'éclaire dans les cas particuliers, mais il me laisse le choisir. Il me laisse même apprendre à le discerner. Je n'ai pas, chaque fois que j'ai un choix à faire, une lumière divine où Dieu vient m'expliquer ce que je dois choisir. J'ai à coopérer, c'est-à-dire que j'ai à apprendre à discerner. Alors dans certains cas, il peut m'aider charismatiquement, mais c'est pour que je prenne moi-même en main la croissance de mon jugement. Alors dans ce sens-là, oui, il n'est pas protectionniste. Mais ça n'en justifie pas le libéralisme économique. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Si c'est dans ce sens-là, d'accord. Mais uniquement dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il court le risque de me laisser choisir un bien apparent qui en fait est un faux bien. Ça c'est très vrai, mais on l'observe tout le temps. Sinon, on ferait moins de bêtises. Parce que toutes celles qu'on fait, elles ne sont pas absolument délibérées. Il y en a où on s'est trompé. Ben pourquoi il nous a laissé nous tromper?
En fait, on réfléchissait avec des amis, on s'est quand même aperçu que Dieu, grâce à l'Église, il nous a quand même donné un enseignement,
oui,
qui nous permet quand même un peu de discerner.
Un peu plus.
Oui.
Oui. Un peu plus. Mais encore faut-il que cet enseignement, précisément, il soit pour moi une pédagogie à discerner. Il ne remplace pas mon discernement. À aucun niveau, c'est-à-dire que l'Église ne me donne jamais, elle ne me donne pas des critères de discernement. Mais le but de l'Église n'est pas de me donner des critères de discernement, elle est de m'apprendre à discerner, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le critère, c'est d'avoir des petits machins dans sa tête, alors on se dit, voilà, là, c'est mais ça ne doit pas être ça. Elle le fait, ça, mais ce n'est pas ça qu'elle fait en premier lieu. Ce qu'elle m'apprend, c'est elle m'apprend à être, à mettre mon intelligence au service de Dieu. Elle me le réclame d'ailleurs autant qu'elle m'y aide.
Alors qu'est-ce que c'est que le discernement?
C'est précisément l'exercice de l'intelligence, mais du côté pratique. Vous voyez, c'est du côté pratique. C'est précisément de me servir de ma capacité de rejoindre le réel pour m'orienter dans ma vie. Et pour m'orienter dans ma vie selon ce qu'est la réalité et pas selon ma manière subjective de la percevoir. Par exemple, d'être capable de découvrir qu'effectivement, la bassine de chocolat que j'ai devant moi, subjectivement, elle est bonne, objectivement, elle est mauvaise pour mon foie. Ça, c'est un discernement. Attends,
oui, tout à l'heure, vous parliez de liberté.
Oui.
Et quand on est en contemplation, quand on adore Dieu, on est complètement aveuglé par son amour.
Et à ce moment-là, on est prêt à suivre. Enfin, je veux dire...
Oui. Dans un premier moment. Dans un premier moment, je suis d'accord. Après ça, il me demande de le suivre en n'étant plus aveuglé sensiblement par son amour. C'est qu'après, des fois, il fait nuit. Je continue à le suivre. Donc je ne le vois plus, j'ai plus qu'à le tenir par la main. Alors, ce que vous lui dites, c'est est-ce qu'on est libre, c'est ça ? À ce moment-là ? À la fois je suis libre, à la fois je suis pas libre. L'amour me laisse pas libre au sens où je peux toujours, où je peux en soi dire non. Mais ça serait tellement stupide que je vais pas dire non. Vous voyez, là, mon amour est antérieur à ma liberté. J'ai pas choisi que j'ai besoin d'aimer. J'ai pas choisi que je serai heureux qu'en aimant. Et j'ai pas choisi que j'ai une capacité d'aimer qui est infinie. En plus, j'ai même pas choisi que Dieu m'aime. J'ai même pas choisi, dans certains cas, que je sois baptisé. Donc vous allez dire, c'est affreux, on n'est pas libre. Mais si, je suis libre. Je suis libre dans ma manière d'aimer.
On a dit que Dieu crée les créatures. Et est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que le temps et le devenir sont les créatures ? Sinon, comment est-ce qu'on peut dire que le temps est créé par Dieu ?
Oui, on va y revenir, ça. On regardera la fin, qui est sur le commencement de la création. Là, pour l'instant, on regarde le rapport entre le créateur et la créature. Ensuite, on regardera l'autre question qui est celle de la Genèse. C'est, est-ce que je peux dire que la création a commencé ? Est-ce que le temps a commencé à un moment ? Alors là, effectivement, on rejoint, c'est le théologien qui dialogue avec le scientifique.
De manière générale, est-ce qu'on peut dire que des notions comme le devenir, etc., sont des créatures ?
Non. Le devenir et le temps, ce n'est pas des créatures. Les créatures, c'est les réalités concrètes. Je n'ai jamais rencontré le temps, ni le devenir. Donc ce qu'on dira, c'est qu'ils sont co-créés. Pas plus que j'ai rencontré la matière. J'ai jamais rencontré la matière. J'ai rencontré des tables qui étaient matérielles, des êtres humains qui étaient matériels, des cailloux qui étaient matériels, mais je n'ai jamais rencontré la matière. Saint Thomas utilisera le terme de co-création. Pour bien montrer, on va revenir dessus, que ce qui est créé, c'est l'être de la réalité. C'est la réalité dans tout son être.
Quand le théologien et le scientifique parlent de la création, est-ce qu'ils parlent de la même
chose ? Bah non, parce que le scientifique est plus scientifique quand il parle de la création.
Non, mais est-ce que, par exemple, la création pour le théologien, ça peut se concevoir dans un univers qui n'aurait jamais eu de commencement ?
Oui, dans le sens d'une relation entre le créateur et la créature. Mais c'est une question, on va le voir, c'est une question de savoir est-ce que le philosophe, est-ce que l'être humain, par son intelligence, peut affirmer que l'univers a commencé ? Finalement, il faudra qu'on se pose la question. Ou est-ce que c'est uniquement la foi ?
J'ai toujours pas compris pourquoi l'existence absolue est une cause de l'existence particulière.
Que l'existence absolue. Effectivement, pourquoi est-ce que l'existence par elle-même, c'est-à-dire que Dieu existe par lui-même et en lui-même, est source de l'existence qui est participée. C'est bien, ce qui est difficile là, c'est que ça ne se démontre pas. Je prenais l'exemple, c'est pas plus que je ne démontre qu'un père est père de son fils. Je peux le prouver biologiquement, mais ce n'est pas la question. Ça n'est qu'en confrontant ce qu'est le père face à ce qu'est le fils que je comprends qu'il est son fils. Et de la même manière, ça n'est qu'en confrontant ce que je suis dans mon existence, dans mon être, à ce qu'est l'être de Dieu, tel que je le rejoins dans la foi, et tel que je suis capable de l'entrevoir dans mon intelligence humaine, que je comprends comment je ne peux être que causé par lui. La paternité de Dieu, elle repose sur l'existence. Dieu est père de mon existence. C'est ça qui est très beau d'ailleurs, c'est qu'il est père dans tout son être, de mon existence dans tout mon être. Alors ce que je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas... C'est tout, on va revenir dessus, hein, sur cette question-là, c'est que c'est pas... Il n'y a pas de signature. C'est pas marqué chez moi que je dépends de lui.
La preuve, c'est que quand je regarde quelqu'un, j'ai beau le regarder de très très près, je ne vois pas que Dieu existe. Et je ne vois pas qu'il est créature. De temps en temps, c'est ce qui arrive quand on rentre au noviciat, on est tellement envahi de la grâce de Dieu qu'on dit « Mais c'est évident que les vaches sont des créatures, que les arbres sont des créatures, que nous sommes tous des créatures. » Et on chante le cantique de Saint François. Eh bien, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas marqué sur la tête de la vache que c'est une créature. Pas plus que dans l'arbre, pas plus que dans moi. Ce n'est pas une évidence, ni que Dieu existe, ni que je suis une créature. Ce pour montrer que je ne remonte pas immédiatement de ce que je suis à Dieu. Donc, là, ça, on reprécisera tout à l'heure, là, sa causalité créatrice, elle n'est pas marquée en moi. Je me comprends sans Dieu. Je suis obligé de l'admettre. Une personne humaine est capable de se comprendre sans Dieu. Elle ne se comprend peut-être pas dans ce cas d'ultime, mais elle se comprend sans Dieu. Comme je peux faire des mathématiques sans Dieu. Ce qui montre bien que, et on reviendra sur cette question, qu'est-ce que le créateur fait dans la créature ? Qu'est-ce que c'est le créateur dans la créature ? Une œuvre d'art, un tableau, on reconnaît son auteur à sa marque. L'intelligence de l'artiste est présente dans son tableau. Et on reconnaît son auteur au tableau. C'est pas vrai pour l'homme. Sinon, l'existence de la personne humaine serait une proclamation évidente que Dieu existe. C'est pas vrai. Qu'affectivement, ça me fasse pressentir que Dieu existe, ça c'est possible parce que je suis un peu attentif. Mais c'est un pressentiment, c'est pas une évidence. On le verra tout à l'heure, c'est l'analogie de l'artiste, elle est difficile à purifier. Parce qu'en plus, c'est l'argument dont on se sert tous plus facilement. On dit, ben voilà, la créature, c'est tellement beau qu'il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait, tellement c'est beau. Ça serait vrai si c'était fait comme une œuvre d'art. Or, ça n'est pas du tout une œuvre d'art. Je ne suis pas une œuvre d'art. Je suis plus. Ou je suis une œuvre d'art divin, ça d'accord. Mais l'art divin, précisément le propre de l'art divin, c'est qu'il s'appelle création. Alors que l'art, il présuppose une matière, transforme une matière, il imprime la marque de l'artiste dans la matière. Et il se sert de la matière pour faire ressortir sa qualité propre d'artiste. Alors que Dieu s'efface dans sa création. On regardera, mais c'est très beau de voir comment est-ce que, en étudiant avec précision ce que c'est que la création, on comprend comment Dieu se sert de la personne humaine pour attirer l'homme à lui et en même temps se cacher à lui. C'est très étonnant cette pédagogie de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marqué en grosses lettres partout qu'il était là ? Il aurait pu trouver des choses. Si tous les matins dans l'église il y avait des miracles tout le temps, on finirait par être convaincu avec des apparitions tout le temps. Puis je sais pas, il est Dieu, il aurait pu inventer quelque chose qui fasse que ça soit évident. Pardon ?
J'ai dit qu'il y a malgré tout eu des apparitions.
Non, non, je suis d'accord. Mais elles sont pas quotidiennes. Et puis, ce n'est pas une apparition de Dieu. Oui ?
Est-ce que l'amour est créature ou est-ce que c'est le moteur de la création ? Qu'est-ce que c'est l'amour ?
Ça dépend. En Dieu, l'amour, c'est lui. Mais en nous, l'amour, c'est un acte. L'amour dans l'homme. Je ne suis pas l'amour.
Alors il est co-créé ?
Oui, exactement.
Comme le temps.
Différemment parce que je suis créé pour aimer. Je suis créé pour aimer. Je ne suis pas créé d'abord pour calculer ou chronométrer. Donc l'amour a un lien particulier parce que il est lié à ma finalité. Plus immédiatement que le temps. En Dieu.
Antérieur à ma liberté.
Oui.
Mais il est antérieur à mon existence.
En Dieu, il est antérieur à mon existence, mais en moi, non. J'ai existé avant d'aimer. Et ma capacité d'aimer, elle apparaît de manière simultanée de mon être. Mais dans le regard de Dieu, c'est vrai. Ça demande déjà un certain recul. Ce qui est au fond de. On le regardera à la fin, qui est au fond d'essayer de discerner dans la création la sagesse de Dieu. Donc d'essayer de voir que ce que Dieu a fait, il l'a fait en même temps pour lui, pour il a fait la personne pour elle-même, et en même temps il l'a fait pour l'amour, ce qui ne s'oppose pas.
Mais justement, comment ça s'articule, ça, dans la vie que tu veux dire, où et comment?
On le re-regardera à la fin, ça. Je crois qu'il faut qu'on continue de préciser ce que c'est que la création. Ensuite, on essaiera de voir comment est-ce que la création nous introduit dans le dessein de Dieu. Mais je dirais qu'il faut demeurer là un certain temps. C'est comme la grâce. C'est vrai que ce qui est le plus important dans la vie chrétienne, c'est là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on verra tout à l'heure que pour y entrer de manière réelle et pour y coopérer vraiment, j'ai besoin que mon intelligence se soit bien, bien heurtée au problème de la création. C'est un des lieux d'assaise nécessaires, le problème de la créature. Parce que on le regardera tout à l'heure, on pourra le regarder à travers les erreurs. C'est-à-dire que toutes les bifurcations se font là. Et on verra qu'il y a des conséquences spirituelles graves du fait qu'on n'a pas un sens réel du lien entre la créature et son créateur.
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est acte pur?
Qu'il est acte pur, ça veut dire que il y a en lui... Enfin, on dirait qu'il n'y a aucune potentialité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui qui soit capable de devenir autre chose. Nous, on est capable de changer. On est capable de créer artistiquement. On est capable d'inventer. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des ressources en nous qui ne sont pas encore actuelles, qui sont virtuelles. En Dieu, il n'y a pas de potentialité. Il n'y a pas de virtualité. Ce qui n'est pas facile à comprendre parce qu'on dira... Oui. Oui, mais il ne peut pas tout faire comme moi je peux faire. Et quand je dis il peut, et quand je dis je peux, c'est pas le même sens. Il peut pas tout comme s'il pouvait n'importe quoi. Oui, ça s'écrit pas comme ça. Vous voyez, c'est pas dans le même sens. Par exemple, la toute puissance de Dieu, c'est pas qu'il peut faire n'importe quoi, qu'il est capable de n'importe quoi. Oui. Donc il ne faut pas que je projette, moi, quand je dis je peux faire ou je peux ne pas le faire. C'est pas la même chose en moi qu'en lui. Ma liberté de pouvoir faire quelque chose, c'est parce qu'il me manque encore. Je ne suis pas complètement actué.
Ça rejoint l'existence absolue.
Voilà, ça rejoint l'existence absolue. C'est qu'en Dieu, tout est définitivement, éternellement donné. Il n'y a pas, de ressources, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que mystiquement, on ne parlera pas de la profondeur, de la hauteur, de la largeur. Mais il n'y a pas de... Comme s'il y avait encore quelque chose. C'est très impressionnant quand on comprend le lien entre la simplicité et l'acte pur. Et je comprends à ce moment-là comment c'est vraiment le repos de l'homme, naturellement, en dehors même de la grâce, elle est dans la découverte de ça, de cet être. Parce qu'en lui, si tout est actué, et on le reverra tout à l'heure, si au fond je ne suis pas extérieur à lui, moi-même je suis présent de manière absolue en lui. C'est difficile de ne pas particulariser Dieu, on a du mal, hein, à ne pas le penser comme celui qui est de l'autre côté. À ne pas le penser comme celui qui est au-dessus, qui est en dessous, qui est en dedans, qui est à côté, qui est à travers, qui est tout ce qu'on voudra. On a du mal à en sachant qu'il y a une image, mais à le rejoindre dans ce qu'il est, en le lui demandant. Vous voyez ? C'est ça l'acte de foi. On est quand même là pour se préparer à la vision béatifique.
Oui, mais quel acte de foi ? Parce que Saint-Anne m'a semblé que... Enfin, je n'ai pas bien compris, mais vous en avez parlé et je me suis dit ça ne correspond pas du tout à la deux fois que je le cite, comme je suis surprise par les doutes et que je...
Non, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a sûrement pas d'opposition.
Mais... Ce n'était pas la même chose que vous avez dit ce matin.
Non, c'est vrai, parce que ce dont j'ai parlé, c'est de la coopération de l'intelligence à l'intérieur de l'acte de foi. Parce qu'il y a un premier moment de la foi qui est celui de la confiance. Ça, c'est le premier moment de la foi. Quand ce premier moment de la foi, il existe, il y a un second moment de la foi qui est de devancer dans la gratuité. Et qui est précisément de faire don à Dieu de mon intelligence. C'est-à-dire de laisser sa lumière passer définitivement et totalement devant ma petite compréhension des choses. et de prendre sa lumière comme plus concrète que ma lumière à moi. Alors ça, le Seigneur nous le donne par. Il commence par nous le donner par grâce, puis ensuite une fois qu'il nous en a donné les goûts, on est obligé de l'essayer d'apprendre. Et ça, c'est la foi qui se. Parce que la foi, confiance, c'est un préambule, mais je dirais, si j'en reste là, elle est un peu désespérante. À long terme. Parce que je me dis au Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait dans l'obscurité? C'est quand même, il aurait pu me faire un peu plus clairement. Mais quand je comprends que la foi, elle est faite pour me préparer à voir, alors à ce moment-là, c'est magnifique. La foi, comme épreuve de confiance, elle n'est qu'une épreuve. Alors que la foi, comme pédagogie sur la terre, à apprendre, à me préparer, à le voir, alors à ce moment-là, c'est génial. Et je dirais, le problème de la vie chrétienne, c'est de ne pas simplement supporter la foi de manière stoïque et un peu pénible quand même. Parce que c'est pénible. Pour que ça devienne bien heureux, il faut que je me serve de l'épreuve pour aller beaucoup plus loin. Oui.
En fait, là, on a vu qu'à l'étage, à savoir la relation que le Créateur, que notre Dieu, fait par rapport à nous,
oui.
Et par rapport à notre devenir, et par rapport à son projet sur nous, pour
oui.
Nous. Mais le deuxième étage, c'est quand nous, on devient Créateur aussi.
Oui, c'est ça, mais ça, je ne le regarde pas pour l'instant. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça, on le reverra après. Je prends le temps de bien. Je sais bien qu'il y a plein d'autres choses à voir. Mais il faut prendre le temps, je crois, de demeurer là. Parce que c'est comme quand on apprend à monter à la montagne. Il faut rester des fois longtemps devant une dalle toute lisse plutôt que d'aller se réfugier sur les petits rochers d'à côté. Parce que c'est là qu'on apprend. Et c'est vrai que le problème de l'existence de Dieu et le problème de la création, c'est quand même le cœur de ma foi.
Et puis
l'intelligence. Et là, je vois ce que vous voulez dire, c'est que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est autre chose que la
l'obscurité, je voulais dire. Et l'obscurité, justement. Comment vous distinguez l'incapacité
oui.
En soi-même
oui.
De l'obscurité?
Ben, c'est que il y a des choses que je ne comprends pas. D'accord, mais c'est je comprends pas parce que personnellement, subjectivement, j'en suis pas encore capable. Mais normalement, je m'en pressens capable. Il me faut du temps, c'est tout. Des choses dont je ne suis pas, dont congénitalement, je n'en suis pas capable. Ce que saint Thomas distingue, il dit, il y a les vérités deux fois, c'est-à-dire ce que je ne pourrais jamais atteindre par mon intelligence. Ça, c'est le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et puis, ce dont je suis... ce que je suis capable de découvrir par moi-même, mais que la foi me donne miséricordieusement en attendant. Ça, c'est l'existence de Dieu, c'est la création, c'est la bonté de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. C'est un regard de sagesse sur l'homme et la femme, sur la fécondité, sur la procréation. Il y a énormément de choses dans l'Écriture que Dieu me donne momentanément, parce que si je ne l'avais pas, je ferais plein de bêtises. Mais ça ne m'exempte pas de le découvrir par moi-même. Au contraire, c'est lui rendre hommage. Ça n'est pas faire hommage à la foi que de vouloir croire ce que je suis capable de découvrir. C'est pour ça que je le crois, dans certains cas, en attendant de le découvrir. Oui, attendez. Oui,
oui, ce matin, vous avez posé une question, à savoir si Jésus était créé ou incréé.
Oui, oui, oui.
Et du coup, j'ai pensé à l'homme, parce qu'on dit souvent que l'homme est une créature de... On affirme ça de façon définitive.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce que, par exemple, une fois qu'il a découvert l'amour, et que l'amour existe réellement dans l'homme,
Est-ce
qu'il ne cesse pas, d'une certaine façon, d'être une créature?
Oui, je comprends. C'est le problème de l'image. Hein. C'est vrai que l'image, elle va très loin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'infini dans ma capacité d'aimer. Et donc, ce qui reflète le plus image de Dieu en moi, c'est ma capacité infinie de contempler et d'aimer. Mais cette capacité, elle est différente de ce qu'est Dieu. C'est pour ça que, c'est ce que disaient les Grecs, hein, c'est ce que dit aussi en partie l'Écriture, on est comme des dieux. Mais comme. Et toute la tentation, c'est d'accepter qu'on n'est que comme. Et qu'on l'est dans la référence à Dieu. Je dis ça parce que ce que le serpent dit, c'est lui dit, et vous serez comme des dieux. Mais lui, il veut nous faire devenir comme lui par nous-mêmes, alors qu'on ne devient comme lui que par don. Parce que cette capacité infinie de contempler et d'aimer, elle ne peut être en acte qu'en le découvrant lui.
Donc on reste créature.
Voilà, on reste créature. Mais alors on verra ensuite, il y a la grâce. C'est que par la grâce, je participe à l'incréé. Et que la grâce devient plus essentielle à ma vie que le fait que je suis créature. C'est pour ça que dans la lumière de la grâce, la création, elle est relativisée. Mais il faut prendre le temps de bien la regarder pour ne pas la dissoudre. Ce que diront, je dirais, si je ne regarde que l'amour, effectivement, je risque de dissoudre la créature. Et on verra que j'ai à bien voir comment est-ce que, tout en allant le plus loin possible dans la grâce, je maintiens l'altérité de la créature. Si je ne suis pas autre, je ne peux pas...
Bien, l'homme est capable de la station inverse, j'allais dire, il est capable de la prostration volontaire, qui est, vous voyez, qui est carrément l'inverse de la station debout. Vous trouvez ça, à ma connaissance, chez aucun animal, si vous regardez ça de façon qualitative, par...
Si je regarde le texte, en fait, sa faute, c'est pas d'avoir mangé le fruit, elle est bien avant sa faute. Sa faute, c'est d'avoir toléré qu'à l'intérieur de son lien d'amour avec Dieu et avec Adam,
Ensuite, il faut parler peut-être aussi de la peau, parce que la peau est... Alors comme telle, si vous voulez, elle ne présente pas de...
Ça, l'orgueil, c'est ça. C'est qu'elle se choisit elle-même plutôt que Dieu. La manière même dont elle écoute le serpent est le signe qu'au fond, elle commence à se regarder plus elle-même qu'elle ne regardait Dieu et Adam. Enfin, quand je regarde bien. Alors ce qu'elle est sûrement pas consciente, c'est des dégâts subséquents. Ça sûrement pas.
S'il vous plaît. Alors, la faute du serpent, c'est la même, à part que lui, il connaissait, connaissait
les conséquences, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très vrai. C'est pour ça qu'elle n'est pas pleinement lucide sur les conséquences. Mais elle est lucide sur le fait que, par rapport à Dieu, elle refuse quelque chose de l'amour qu'elle avait envers lui. C'est simple, je veux dire, la logique de l'orgueil, c'est celle qu'on... Parce qu'il y a quand même des actes d'orgueil où on est plus ou moins lucide. Ben, ceux où on est à peu près lucide, c'est simple, c'est exactement la même chose. La théologie de l'orgueil, elle est expérimentale. La Genèse est là pour m'éclairer. C'est-à-dire que le texte de la Genèse n'est pas simplement là pour me raconter quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. On le reverra, il faut distinguer dans la Genèse exactement ce qui m'est dit dans la foi quant à l'origine, et puis ce qui m'est dit de manière universelle. C'est pas facile. Là aussi, il y a un discernement de foi à exercer.
faut pas prendre la Genèse matériellement, tout comme elle m'est donnée, comme si ça s'était passé comme c'est décrit, avec des petits arbres et des jardins et tout ça. Ni non plus dire tout ça c'est mythologique et en fait c'est simplement symbolique de ce qu'est l'humanité. C'est ni l'un ni l'autre. En même temps, il y a quelque chose de réel qui regarde l'origine, et en même temps, il y a quelque chose d'universel. C'est ce qu'on voit très bien en hébreu, le mot Adam, si vous regardez bien le texte de la Genèse, et même l'Ancien Testament, le mot Adam est pris dans un double sens. Adam, dans certains cas, désigne un être particulier, qui est le premier, et dans d'autres cas, Adam désigne l'humanité. On voit dans les psaumes ça. Il y a des moments où Adam, ça veut dire l'homme, avec un grand H. Et il y a d'autres cas où Adam, ça désigne le premier des hommes. On reviendra tout à l'heure dessus. Enfin, non, on ne reviendra pas parce qu'on n'aura pas le temps. Le but, c'est de vous donner des pistes de recherche. Hein. C'est pour vous montrer que la foi, on commence. Et du coup, ça donne envie d'aller voir du côté de Dieu comment est-ce que lui, il comprend les choses. Oui.
Et tout ce que disent les scientifiques, oui, est radicalement différent, qui parlent d'atomes, de molécules.
Oui, c'est bien.
Comment est-ce qu'on peut concilier?
Ben, c'est ce qu'on a regardé un petit peu hier. En fait, c'est deux regards différents. Le scientifique, il a un regard très précis, qui est parfaitement, qui est limité. C'est exactement comme un chimiste qui regarde un tableau de Van Gogh. Il est capable de me donner la composition chimique du tableau. Il est incapable de m'expliquer le génie, l'inspiration géniale de Van Gogh. Ce qu'il me dit est juste, que c'est du sulfure de je ne sais pas trop quoi, plus tel type de choses cuites, plus de l'huile de tel type, plus... Ça, c'est tout à fait juste. Il ne m'explique rien de Van Gogh lui-même. Je dirais, le scientifique qui me parle de molécules, le scientifique qui me parle d'atomes, me dit quelque chose que sur la composition chimique. Il ne me dit rien quant à la personne comme personne. D'abord parce qu'il n'atteint que le visible, que le matériel plus exactement. Et il ne l'atteint qu'à travers une grille de lecture qui est constitutive de sa science. C'est-à-dire qu'il construit un modèle et il le vérifie. Ça, c'est le scientifique. Alors que l'intelligence humaine est faite pour aborder l'homme en dehors de tout modèle. Enfin, en dehors. Au-delà de tout modèle. Donc, c'est deux regards qui ne se contredisent pas, mais qu'il faut respecter chacun son niveau. Et quand on empiète sur le voisin, il faut dire « halte là ». Quand le chrétien essaye de s'imaginer comment est-ce que... Parce que vous savez, il y a un moment, il y a Caïn et Abel, donc c'est les deux premiers. Et alors Caïn tue Abel, et puis après ça, il est dit qu'il a peur des autres. C'est bizarre, parce qu'il ne devrait pas y en avoir d'autres. S'ils sont les deux premiers, il n'y a personne d'autre. Donc, si vous voulez, le scientifique, le chrétien qui essaierait à partir de ça de faire de pieuses imaginations scientifiques pour savoir comment est-ce qu'il y en a un autre, s'il n'y en a pas un autre, comment ça se fait qu'ils étaient les deux premiers... Ça ne relève pas du domaine du croyant, ça. Et historiquement, de quand date Adam, et, vous voyez, ça ne relève pas du regard du croyant. Quand le croyant cherche des renseignements scientifiques dans l'écriture, il se trompe. Mais inversement, quand il va demander aux scientifiques des renseignements pour mieux croire, il se trompe aussi. Le tout, c'est de bien, bien, bien respecter son domaine, et notamment au niveau scientifique, de délimiter l'hypothèse de l'expérience, de l'expérimentation. Savoir que l'hypothèse et la théorie sont toujours, par définition, hypothétiques.
On pourrait même douter l'existence d'Ève et d'Adam dans ce cas-là.
Scientifiquement, tout à fait. Scientifiquement, Ève et Adam, ça ne me dit rien du tout. Même scientifiquement, je peux émettre l'hypothèse qu'il y a un premier couple. Je peux en émettre l'hypothèse, mais qui s'appelle Adam et Ève, c'est pas marqué. Tu vois ce que je veux dire, la foi me donne un regard personnel. Elle ne me donne pas un regard scientifique. Alors, dans ma foi, je ne doute pas de l'existence d'Adam et d'Ève, mais je ne peux pas... C'est objet de foi, ce n'est pas objet d'imagination. Et je n'ai pas à chercher à faire coïncider ça avec la science. Alors, ça m'intéresse, et je suis attentif au fait que la science me dise qu'aujourd'hui, le monogénisme, c'est-à-dire le fait que l'humanité descende d'un seul couple, est infiniment plus probable que le polygénisme, et que biologiquement, on voit de moins en moins comment est-ce qu'on pourrait faire un saut de l'animal à l'homme, ça m'intéresse. Et c'est pas pour autant que je vais dire que c'est plus catholique. La question n'est pas de savoir si la science est conforme à la foi catholique. La question est de savoir si la science est scientifique. Si elle se trompe, c'est qu'elle n'est pas scientifique, c'est pas qu'elle est contre Dieu. Et c'est pour ça que je dirais, c'était typique pour le linceul, par exemple. Le problème, il est, est-ce qu'on est scientifique? Le problème, il n'est pas de savoir si ça vient troubler notre dévotion. Alors, que le fait que ça vienne troubler ma dévotion, ça me rende plus attentif au niveau de la science, alors tout à fait. Et que je m'aperçois qu'en fait, ce n'était pas du tout scientifique, ça, tout à fait, ça, c'est intéressant. Mais il faut bien distinguer les domaines. Et de voir que la rigueur du théologien est différente de la rigueur scientifique. Alors, je vous disais ce matin que le... il y a une purification du regard. Donc, par rapport au problème de la création, que je pense inévitablement sous le mode de la production artistique. Ou bien que je pense, dans certains cas, sur le mode de ce qu'on appelle la cause efficiente. Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Dans une production artistique, d'abord, il y a toujours une matière. Je produis toujours quelque chose à partir d'une matière préexistante. Et dans cette matière vient s'imprimer l'inspiration de l'artiste. Ensuite, cette production, elle implique un mouvement, un changement de cette matière. D'accord ? Donc il y a un avant et il y a un après. Il y a le temps de l'inspiration, il y a le temps de la production. Il y a le temps de la contemplation de l'œuvre. Et à travers l'œuvre, je redécouvre l'artiste. Pourquoi ? Parce que l'artiste a imprimé sa marque dans l'œuvre. Et c'est précisément parce que l'artiste a imprimé dans une matière qui n'était pas lui ce qu'il est. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'art, c'est que je prends quelque chose qui n'est pas moi et je m'y imprime. À ce moment-là, ça me fait apparaître beaucoup plus clairement. Quand vous faites une œuvre, c'est toujours une manière de vous imprimer dans la matière sur laquelle vous travaillez. L'art est toujours une expression de soi-même. C'est jamais altruiste, l'art. Ça peut le devenir quand c'est mis au service d'autrui, mais la motivation de l'art ne peut, enfin plus exactement, ce qui détermine l'art ne peut pas être l'altruisme. Et donc là, c'est le modèle même de la cause efficiente. C'est-à-dire que je reconnais la cause, qui est l'artiste, dans son effet, qui est l'œuvre. Et nous, on se dit, ben voilà, Dieu nous a fait comme ça. Il nous a fait. Donc c'est normal qu'en se regardant bien, on découvre l'artiste. Alors la première chose que dira le théologien, philosophe aussi, c'est que d'abord, il n'y a pas de matière préexistante. Deuxièmement, il n'y a pas de mouvement, ni même de changement. Puisqu'il n'y a rien. Et il n'y a rien. C'est pour ça qu'on dira, c'est à partir de rien que Dieu crée. En plus, s'il n'y a pas de changement, pas de matière, pas de mouvement, pas de devenir, il n'y a pas d'instrument. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis toujours dans la même logique, là, l'art, il travaille sur quoi ? Sur la forme. Je vois où l'artiste a travaillé sur le bloc de granit. Je reconnais sa marque. Là, ce n'est pas sur la forme, c'est sur tout l'être. Ça veut dire que Dieu n'est pas cause d'une partie de moi. Il est cause de tout mon être. Et c'est précisément parce qu'il est cause de tout mon être, d'une certaine manière, que j'ai tant de mal à le voir à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est très bizarre, c'est que si j'ai tant de mal à découvrir la présence de Dieu dans sa créature, c'est qu'il est trop proche de sa créature.
C'est aussi la force de l'Esprit Saint. Tant que l'Esprit Saint est en nous, à la limite, c'est l'Esprit Saint qui parle.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Là, je ne suis pas au niveau de l'Esprit Saint. Non, non, l'Esprit Saint, c'est clair. De toute façon, l'Esprit Saint, quelle que soit ma couche d'incompréhension, il est capable de passer à travers les portes fermées. Donc, il n'y a aucun problème. Là, j'essaie de voir au niveau de mon intelligence humaine. De mon intelligence humaine dans la foi.
Alors, moi, je ne comprends plus. Si on prend la Genèse,
Non, je prends plus la Genèse. Je suis plus dans la Genèse parce que la Genèse, c'est une image. Et donc maintenant, j'essaye de comprendre comment la Genèse, elle réclame de la part de mon intelligence un dépassement. Et que la Genèse, c'est la première pédagogie de Dieu. Elle m'introduit dans le regard de Dieu. Ensuite, le deuxième temps, c'est que, à travers l'Écriture, et en m'appuyant pas simplement sur la Genèse, mais sur les textes de la sagesse que je vous ai cités ce matin, j'apprends à dépasser l'image que me donne la Genèse, qui est une image d'artisan. Dans la Genèse, je vois quoi ? Je vois Dieu qui réfléchit, qui décide, qui met en œuvre et qui contemple son œuvre. Donc c'est le modèle de l'artisan. Mais j'essaie de comprendre comment c'est juste symboliquement, ça ne peut pas être vrai réellement. Vous voyez, ça ne peut pas coïncider avec le réel.
Mon incompréhension n'est pas là. Si on est là, si effectivement on est Dieu nous crée,
oui.
Il y a un mouvement, même s'il ne faut pas le quantifier avec
eh bien
une
non.
mesure humaine.
Eh bien non.
Une motion spirituelle.
Non, non, non. C'est précisément le travail de l'intelligence. C'est de dire ça n'est pas possible qu'il y ait un mouvement. Ça ne veut rien dire. Dieu n'est pas en mouvement. Et comme la création, c'est un acte de Dieu. L'acte créateur, c'est Dieu. Ce n'est pas un mouvement de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne fait pas un acte. La création, du côté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Du côté de la créature, c'est la créature.
Il génère quelque chose.
Non, précisément, il n'y a pas d'engendrement. Il n'y a pas de génération. C'est précisément la difficulté de la création. Nous, on met des distances parce que ça nous aiderait à mieux comprendre. Mais c'est la question, c'est pas que je comprenne mieux, c'est que je respecte la réalité comme elle est. Or, c'est pas possible, parce que ça porte sur l'être. Et l'être, il n'est pas transformable. Il n'est même pas engendrable. Il n'y a pas une procession de mon être à partir de Dieu. L'être de Dieu ne se coupe pas en morceaux pour créer le mien. Oui, je suis d'accord. Mais il est engendré pas en tant que fils de Dieu. Enfin, il l'est comme dans le mystère de la Trinité, à ce moment-là. Mais il l'est pas. La génération au sens de la Trinité, et c'est pas ce dont je parle là. Là, je suis au niveau de la théologie naturelle. C'est-à-dire que je suis au niveau de la création. Je suis pas fait de Dieu. Je suis fait par Dieu.
Oui, mais en permanence, quoi.
Tout à fait, en permanence.
Eh bien, quelle est la différence entre... comment je peux définir alors le corps du Christ ?
Oui, on va y venir à tout ça, mais ayez le courage de prendre les choses dans l'ordre. Oui, je ne vais pas... Je ne sais pas comment vous dire. C'est exactement si je me mettais à réfléchir au problème de l'unité de l'âme et du corps à partir de la mort. Ou je me mets à réfléchir sur l'homme en bonne santé à partir du malade. Non, c'est pas la situation particulière qui m'éclaire sur la réalité. On va voir le problème du corps du Christ, on va voir le problème du Christ. Mais précisément, si j'entre vraiment dans le mystère de la création, alors le mystère du Christ et du corps du Christ, vous allez voir, il devient absolument immense. Et bien plus grand que ce que j'imagine. Mais il faut que j'aie le courage de sécher un peu là. Oui.
Ça veut dire qu'il n'y a aucun métaxu ?
Aucun intermédiaire, oui. Par les Français. Oui, il n'y a aucun intermédiaire. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un acte entre Dieu et moi. La création, ce n'est pas un acte de Dieu. Parce que les actes de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et de mon côté, je ne peux pas dire que Dieu me crée par l'intermédiaire de quelque chose. Puisque c'est sur mon être que ça porte. Donc il n'y a rien de moi qui n'échappe actuellement à l'être créateur de Dieu qu'il est lui-même.
Oui, mais cependant, il faut bien distinguer le créateur de ses créatures.
Bien sûr, tout à fait.
C'est là qu'il y a
une... Et voilà. Et voilà. Mais il faut que j'aie le courage de voir que je vais jusque-là, et ensuite, ce qu'il reste, c'est que je ne suis pas lui. C'est tout. C'est pour ça que il n'y a rien de moi qui ne soit extérieur. Rien dans moi n'est extérieur à Dieu. Et je ne suis pas extérieur à lui. Je ne suis pas en dehors de lui. Je suis en lui, mais je ne suis pas lui.
Et on est bien issu de la nature humaine.
Comme ça, c'est autre chose. Là, tu reviens sur le problème de la, on va le revoir, le problème de la procréation. Là, je regarde mon être. pas commode, hein, de demeurer dans le présent de ce que je suis. Mais elle est là, l'adoration. Elle est dans le présent de ce que je suis.
Est-ce que ce qui fait difficulté, c'est pas justement la difficulté à imaginer que le temple de Dieu est taxé en même temps que les paroles?
Oui, mais ça, c'est ça, pour l'instant, je suis... on y reviendra, mais j'essaie de demeurer, de ne pas soulever d'autres problèmes en même temps que celui-là. C'est déjà suffisamment, je dirais, difficile de demeurer là. Oui.
Alors, oui, on a parlé de la Genèse et vous nous expliquez que dans la Genèse, en fait, il y a une espèce d'image, de symbole,
oui,
qui,
oui,
nous aider à mieux comprendre.
Tout à fait, oui.
Et est-ce que vous pourriez nous dire qui a écrit cette Genèse?
Personne ne sait qui a écrit la Genèse. La Genèse est un récit. On sait que son époque de rédaction, c'est à peu près l'époque des récits mésopotamiens. Il y a beaucoup de mythes à la même époque. Et que son originalité littéraire, c'est d'avoir une pureté de regard qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pour beaucoup de choses. Sur l'égalité de l'homme et de la femme, sur le fait qu'il n'y a pas de fantastique, sur le fait qu'il n'y a pas de monstre, sur le fait que précisément la création n'est pas engendrée par division de la divinité avec elle-même, qu'il n'y a pas de mélange entre le divin et le terrestre. Enfin, il y a beaucoup de caractéristiques qui sont propres au texte, ne serait-ce que, enfin, uniquement dans une lecture humaine. Ensuite, la tradition juive et la tradition chrétienne l'a reçue comme inspirée, c'est-à-dire comme guidée par Dieu dans la réalité qu'il désigne.
Donc on ne sait pas.
Non, c'est pas gênant.
Non, mais parce que moi j'avais entendu dire que la Genèse avait été écrite,
oui,
en Orient.
Oui, ça fait partie des hypothèses, c'est une hypothèse.
Et que justement c'était un pays qui avait énormément besoin d'images et que pour cela il y avait énormément de symboles.
Oui. C'est vrai, le Moyen-Orient, mais c'est tout le monde qui a besoin de beaucoup d'images.
En fait, si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est que l'être dont tu parles, c'est notre être priant en ce moment.
Oui, quand j'adore, oui.
On est en train de se repasser dans un être.
Oui, c'est pas ça.
Du vivant, à savoir la naissance et la mort.
Non. Moi, je parle de mon être actuel. Exactement.
C'est l'être qui nous fait prier, quoi.
Tout à fait. C'est mon existence. C'est mon existence actuelle.
À la seconde même.
Exactement. Oui. Il n'y a que là que j'en ai l'expérience. Parce que l'être d'hier, je n'en sais rien. Je n'ai plus l'expérience.
Vous dites je suis dans lui, mais toute chose est Dieu, alors?
Non, toute chose est en lui.
Oui, mais je vois pas, est-ce que vous pourriez un peu...
Oui. Vous voyez, c'est tout le problème, c'est que je commence par avoir l'évidence quotidienne que je suis pas Dieu. Non, mais je me resitue dans le regard qu'on a pris. On a commencé par ça, hein. Devant Dieu, je ne suis pas lui. Bon, ça, c'est la première constatation. Si je m'arrête là, c'est déjà pas mal, j'aurais tendance à concevoir Dieu comme extérieur à moi. Et à m'en faire un Dieu dans le ciel et moi sur la terre. Précisément, la réflexion théologique sur la création m'oblige à voir que j'ai à purifier mon imaginaire. Et quand je vais jusqu'au bout de la réflexion théologique, de la contemplation à l'aide de la théologie, aidé par la théologie dans la foi, je découvre qu'il n'y a aucune distance entre mon être et Dieu. Mais qu'il n'y a aucune distance. Et que du côté de la création, Dieu soit identique à son acte créateur, et que du côté de la créature, la création soit identique à la créature, ça veut dire simplement qu'il y a une différence d'altérité. Je suis autre que lui. Mais je ne suis pas deux, il n'y a pas de dualité. Ça, l'Orient a beaucoup souligné. Hein, il y a toute une critique actuellement de la spiritualité orientale, qui est de dire, vous les occidentaux, vous restez dans la dualité. Il y a Dieu en haut, vous en bas, il est bon, vous êtes mauvais, enfin... Et c'est vrai, il y a une critique qui est juste. Il n'y a pas de dualité au sens où il y aurait deux mondes séparés l'un de l'autre. Mais il y a une altérité. Et une altérité qui implique quelque chose d'infini entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui manque à l'Orient. C'est que l'Orient ne parlera pas de l'altérité. Et du coup, je serai une émanation de Dieu. Et en fait, au fond de moi-même, je serai Dieu. Et c'est là que, précisément, la compréhension de la causalité créatrice, c'est-à-dire précisément de comprendre que je suis causé par lui, implique que je suis autre que lui, et infiniment autre que lui, puisque je ne coïncide pas avec mon être. Je ne suis pas absolument, et il est absolument. Alors c'est pas commode, parce que c'est vrai que, vous voyez, j'irais même, ça me met dans une humilité très juste. Parce que le fait que je sois en lui... fait que je ne peux pas me considérer séparé de lui, aussi pécheur que je sois, mais le fait que je sois créature et que je ne coïncide pas, que je ne sois pas autonome, enfin, je ne sois pas créateur de moi-même, me met dans une humilité fondamentale, c'est que je reçois tout de lui. Je dirais, la justesse du regard sur la création me met dans l'humilité. C'est ça la crainte de Dieu. Oui.
Donc l'Eucharistie, c'est l'être absolument. Quand on mange l'Eucharistie.
L'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Et c'est le corps du Christ présent sacramentellement. C'est-à-dire que je porte pas, je touche pas l'être de Dieu. Ce que je touche physiquement, c'est les espèces. On y reviendra, mais oui, c'est bien que ça vous fasse réfléchir. Hein. C'est le but que ça vous fasse réfléchir. C'est qu'effectivement, ça vient corriger énormément, énormément de choses au niveau théologique. Notamment, on va le revoir sur le temps et l'éternité. C'est que moi, je suis dans le temps. C'est pour ça que je ne peux pas dire « je suis ». Lui, il est. Et donc, il n'est pas comme ça. Il est d'une manière absolue. Et le temps, il est en lui. Donc quand je dis Dieu savait avant ce que j'allais faire après, ça n'a pas de sens. Parce que chez Dieu, il n'y a pas avant et après. Il n'y a que chez nous qu'il y a avant et après. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez. Il vaut mieux que j'aie le courage de ne rien savoir plutôt que de m'imaginer de travers. Si c'est le premier. Vous n'auriez retenu que ça, c'est le plus important. Alors ensuite, vous voyez, j'ai essayé de réfléchir comment s'aider à le découvrir. Au fond, la question que se pose, que je me pose dans ma foi, et présent, c'est le problème de savoir, c'est d'où je viens. Je viens de lui. Mais je viens de lui actuellement. Vous voyez, je réfléchis sur l'origine, mon origine actuelle, qui est différente de mon origine dans le temps. Il y a un moment, je n'existais pas. Ce qu'on appelle l'origine dans un ordre génétique, pas au sens biologique, hein, mais dans un ordre du temps, l'origine temporelle. La première question que le théologien essaye d'aborder, c'est mon origine actuelle. Actuellement, mon origine, c'est Dieu. Ensuite, dans le temps, je viens et de Dieu et de mes parents. Mais ce n'est pas au même niveau, vous voyez. Et précisément, ce qui est très beau dans la procréation, c'est qu'il y a une coopération de la personne, de l'homme et de la femme à l'acte créateur de Dieu. C'est là qu'il y a une alliance. C'est que l'éternité se met au service du temps. C'est ça la procréation. À l'initiative d'un homme et d'une femme, Dieu, de toute éternité, a décidé la création de cette personne, plus exactement de cette âme, dans ce corps. Mais ça donne une grandeur à la procréation qui est inouïe. Parce que mon âme, j'ai commencé d'exister dans le temps à un moment donné, à l'initiative de mes parents, causée par Dieu. Vous voyez, il y a une réponse, si vous voulez, de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne vient pas de mes parents. C'est clair, sinon je ne pourrais pas leur dire non. Ou leur dire oui, je ne pourrais pas les choisir. Précisément, ce qui fait que je suis autre que radicalement autre que, c'est précisément mon esprit, c'est ce qui m'est donné par Dieu. Là ensuite, j'essaye de voir comment est-ce que il y aura d'autres précisions, si vous voulez, du théologien qui est de dire d'abord c'est la Trinité dans son unité qui me crée. Vous voyez, c'est pas le Père, le Fils ou l'Esprit Saint. Dieu, il est un et il est parfaitement simple, tout en étant Trinité, c'est ça son mystère. Mais Dieu me crée dans son unité. Ensuite, et c'est la seconde grande question que qu'on avait soulignée, c'est au fond, quant à l'origine génétique, quant à l'origine temporelle, la question elle est la suivante, c'est est-ce que l'intelligence humaine est capable d'affirmer que le monde a commencé à exister à un moment donné ? Eh bien non. Même la science. La science, elle me dit, voilà, j'arrive à rejoindre les conditions de possibilité d'apparition de la matière, mais avant, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est ce que le bon scientifique dit. Avant, je ne sais pas. Donc, je ne peux absolument pas affirmer que ça a commencé d'exister à un moment donné. Oui. Mon expérience actuelle de la réalité ne me permet pas d'affirmer avec évidence que le monde a commencé d'exister. Ça fait partie d'une hypothèse scientifique ou humaine. Mais je ne peux pas, j'en ai pas l'évidence. C'est pour ça que c'est objet de foi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, ça m'est révélé. Si je n'avais pas la révélation, je ne pourrais pas le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création n'est pas coéternelle à Dieu. Elle est mesurée par Dieu. Elle commence à un moment donné. Comme mon existence d'ailleurs. Vous savez, la réincarnation, c'est de dire que j'existe de toute éternité, contemporain de Dieu, et que j'ai été déchu de Dieu et que je dois y retourner. Oui, c'est pas facile, effectivement, de voir que tout en affirmant que du côté de Dieu, il est identique à son acte créateur, du côté de la créature, j'ai commencé d'exister. C'est ça qui est très impressionnant. Oui.
Est-ce qu'au commencement, ça ne va pas être entendu comme dans le principe à ce
moment-là ? Non, parce que c'est pas du grec. C'est de l'hébreu. Et en hébreu, la notion de commencement est d'abord un commencement dans l'ordre du temps. Alors qu'effectivement, en grec, puisque l'évangile de Saint-Jean est en grec, le haut commencement implique. Ça qui est impressionnant, c'est que la parole de Dieu que Dieu me donne, elle est marquée, y compris dans la langue dont il se sert. C'est pas pour rien qu'il s'est servi du grec pour le Nouveau Testament et les livres de la sagesse, et qu'il s'est servi de l'hébreu pour l'ancien. Alors ça veut pas dire que si je sais pas l'hébreu et le grec, je peux pas lire la parole de Dieu, hein, c'est pas ça. Mais le mot, je crois que c'est Bereshit en hébreu, ça n'a pas la notion de principe. Et donc le commencement du commencement de l'évangile de Saint Jean n'est pas le même que celui de la Genèse. Évidemment, éternellement, il y a une coïncidence. Ça, c'est clair. Ça aussi qui est très beau. Oui.
C'est parce que tout à l'heure, vous avez dit que la création, vous pouvez l'atteindre avec l'intelligence, et là, il me semble que vous dites le contraire, qu'on ne peut pas en avoir l'évidence que c'est révélé.
Voilà, parce que la création, comme l'acte créateur de Dieu, ça, je peux le rejoindre, non pas l'expérimenter, mais je peux l'affirmer dans mon intelligence. Mais la création comme l'origine, c'est-à-dire à un moment donné, l'univers a commencé. Ça, je ne peux pas le rejoindre. Parce que c'est le problème de l'intelligence humaine, c'est qu'elle n'existe qu'actuellement. Et qu'il n'y a rien dans l'univers qui nécessite absolument de dire qu'il a commencé à un moment donné. Mais ensuite, avant de revenir, on va le voir sur le mystère du Christ, dans cette lumière-là. Bon, il y a la question du mal, hein, je ne veux pas la développer, mais sur le fait que Dieu ne crée pas le mal. Dieu crée la créature, et le mal qui est un bien. Et le mal est une absence du bien, c'est une privation du bien. Mais il n'est pas cause, vous voyez, le mal n'est pas une réalité. Le mal est réel, mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas un être, le mal. Ça existe, mais ça n'est pas un être. Que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit le désespoir, ce n'est pas un être. Ça existe, mais ça existe dans un autre être. Ça existe dans une réalité. Si, bien sûr que si. Par exemple, quand j'ai un rhume, c'est très simple, quand j'ai un rhume, ça dépend pour qui. En soi, ce n'est pas un mal. C'est un mal relativement à moi. Comme phénomène biologique, ailleurs c'est très bon, ici c'est mauvais. Oui, d'avoir mal, dans certains cas c'est un bien, ça me permet de m'apercevoir que c'est chaud. C'est pour ça que je veux dire, la notion de mal ou de bien, vous voyez, elle n'est pas, j'ai à faire attention à la manière subjective dont je la considère. C'est pour ça que c'est mal, ça implique une relation, le mal. Le mal, c'est toujours une privation par rapport à quelque chose d'autre. C'est toujours relatif au bien, le mal. C'est un manque de bien. Et le mal absolu, ça n'existe pas.
Pourquoi est-ce qu'il y a un ange qui est parti vers le mal absolu ?
Il n'est pas parti vers le mal absolu. Le démon, dans son être, il est bon. Il existe. Ce que je vous disais sur le serpent. Le serpent, c'est une créature de Dieu. Je suis désolé. Je peux m'enfermer dans le mal, ça n'enlèvera rien que je suis une personne humaine. Et que comme personne humaine, c'est un bien d'exister. C'est un bien d'exister. Oui.
Alors justement, cet être qui s'appelle Lucifer,
oui.
C'était un ange magnifique,
oui.
que Dieu a créé.
Oui.
Comme Dieu l'a fait vivre,
oui.
il a choisi
oui.
de se sentir pas soumis à Dieu et
oui, 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 oui.
de faire son truc ailleurs. Quoi.
Oui.
oui. Et c'est pour ça que c'est un être, on parle de l'esprit du mal. Enfin bon.
Mais je suis d'accord, mais dans son être. Comme créature, eh bien, une existence, un être spirituel n'est pas mauvais comme tel. Il est mauvais dans ses actes. Si j'étrangle mon frère, je suis désolé, mes forces elles sont bonnes, ma santé aussi, ma réflexion aussi, mon raisonnement aussi, mon efficacité aussi, ma précision aussi. La seule chose, c'est que ça, mon pauvre frère, ça lui, pour lui, c'est un mal. Et pour moi, c'est un mal. Mais ça n'enlève rien de le fait que dans mon être, je reste bon par certains côtés. Et fondamentalement, du côté de l'existence. Mais évidemment, pas au niveau moral. Le bien et le mal au niveau moral, c'est pas la même chose que le bien et le mal au niveau ontologique. Et ce qui est important, c'est que le bien et le mal au niveau moral s'inscrit sur le fond de l'existence. Je ne suis pas constitué par mes actes. J'existe avant mes actes. Avant que je fasse quoi que ce soit, j'ai existé. Et mon engagement, ça ne détruit pas mon être. Je ne suis pas anéanti parce que j'ai fait quelque chose de mal. C'est d'ailleurs ce qui...
Sauf si on désespère.
Même, je ne peux pas m'anéantir. Comment vous voulez ? C'est pas possible. Ça, je suis désolé, il n'y a que Dieu. J'existe, j'en peux rien. Ça peut m'être pénible. Mais même si ça m'est pénible, je n'en peux rien. Il ne m'a pas demandé mon avis. Mais non, concrètement, je ne peux pas m'anéantir au sens philosophique du terme. Je ne peux pas faire que j'existe plus. Mais non, le suicide, je cesse de vivre une vie humaine, une vie terrestre. Je ne peux pas. J'en peux rien, Kizouli, c'est comme ça. Non, non, mais ça c'est clair. Mais c'est pour dire que la, dans son être, à la bonté de Dieu.
Servir.
Tout à fait. Vous voyez, donc c'est important, je crois, de distinguer l'être de l'agir. La grâce, c'est du côté de l'agir. La création, c'est du côté de l'être. Oui, mais ce que j'ajoute, c'est que le mal existe. Mais ce que je peux, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je précise, c'est que ça n'est pas une réalité. Il n'y a pas une réalité qui s'appelle le mal.
Il peut y avoir le mal en puissance.
Oui. Voilà. Exactement. Il peut y avoir le mal en puissance, mais pas. Il n'y a jamais. Rien n'est essentiellement mal. Alors, ce qu'il faudrait regarder maintenant. Juste avant de passer au Christ, c'est effectivement le problème de la procréation. De voir, et ça c'est pas simple, parce que déjà d'entrevoir le rapport entre l'éternité et le temps, c'est pas commode, alors d'entrevoir l'alliance entre l'éternité. En fait, il ne faudrait pas parler de l'éternité. L'éternité, c'est Dieu. Il est l'éternel. Dieu n'est pas dans l'éternité. Il n'est pas dedans. D'abord, il est dans rien. Et ensuite, l'éternité, ce n'est pas quelque chose qui mesure Dieu. Il est éternité. Ce qui veut dire qu'il est au-delà du temps. Ou plus exactement, pour le dire positivement, qu'il est dans un présent absolu. Alors que nous, on est dans le temps. Et dans le devenir. Et on est dans le temps parce qu'on est dans le devenir. Et on est dans le devenir parce que notre être... Il n'est pas absolu, il est participé. Et l'acte de Dieu, l'acte créateur, il est éternel. Mais dans son effet, son effet est dans le temps. C'est pour ça que l'initiative d'un homme et d'une femme d'avoir un enfant relève du temps, du devenir, de l'univers créé. Et la réponse à cette initiative, c'est l'acte créateur de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acte créateur de Dieu particulier pour chaque chose. Dieu, il ne fait pas plusieurs choses. Enfin, vous voyez, je veux dire, il ne fait pas une chose, et puis une seconde, et puis une troisième, et puis une quatrième. Du côté des effets, il y a une multiplicité. Il y a une diversité, je dirais, il y a une répartition dans le temps. Alors vous allez me dire, mais Dieu, il savait avant que voilà, mes parents allaient avoir un enfant. Qu'il avait prévu, c'était tout téléguidé d'avance. Vous voyez, c'est toujours le même pièce. C'est-à-dire que c'est pas qu'il savait avant, il n'y a pas avant. Alors ça, il faut au moins être farouche d'une manière négative. C'est-à-dire qu'il faut s'interdire de le penser de manière fausse. Parce que sinon, on est toujours en train de se dire qu'il va savoir. Mais je prends des problèmes de vocation, c'est exactement la même chose. Alors, il sait d'avance ce que je vais faire. Donc, au fond, ça ne sert à rien. J'ai plus qu'à attendre qu'il me le dise. Oui, c'est la prédestination. Mais la prédestination, c'est pas. Il avait des plans et il attend que ça s'exécute. Il n'a pas un plan, Dieu, en attendant que ça s'exécute. Son plan, il est éternellement réalisé de son côté. Il est éternité. C'est un peu rude hein, pour nous, sachez que c'est le moment où. Alors juste.
Avant qu'il y ait fécondation.
Oui.
Au moment avant qu'il y ait fécondation, oui. Il y a une demi-guerre alors.
Il y a une
demi-présence, il y a.
Oui, bien sûr. Il y a une... Non, il y a une réalité vivante.
Qui est coupée en deux.
Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ma personne, elle n'est pas faite à 50% par mes parents, 50% pour Dieu. Par Dieu.
Non, mais 50% pour la mère, 50%.
Même pas pour le corps, c'est pas vrai. Pour la matière, pas pour le corps. Mon corps, il est humain par mon âme. Mon corps, il est mon corps grâce à Dieu.
En fait, ça illustre ce que vous disiez tout à l'heure, que la création est du côté de Dieu, Dieu est création.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est pas les parents qui donnent 50% puis Dieu qui rajoute ce qui manque. Non mais c'est très important, vous voyez. Parce que si c'est une alliance avec Dieu, il faut la connaître, la structure de l'alliance. Pour coopérer à une alliance, il faut savoir quels en sont les termes.
Et l'âme est créée pour chacun, chaque fois.
L'âme, elle est créée pour chacun, du côté de l'effet. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a recommencé. Voilà. Pas plus que Dieu continue. Vous voyez, c'est important de dire que Dieu continue de me créer. Comme si tout d'un coup, il allait pouvoir s'arrêter. S'il allait oublier, vous voyez. Il continue pas. Non mais... Il continue pas. Hein? Oui, c'est, je vous dis, c'est un point. C'est très important. Et pour la procréation, je crois que c'est très important de voir que... Et c'est ça qui est stupéfiant, c'est que, si vous voulez, l'éternité entre, coopère avec le temps. Et le temps, d'une certaine manière, rejoint l'éternité. C'est important parce que l'analogie de la fécondité est celle dont on va se servir pour la Sainte Trinité. Donc c'est important de regarder ce que c'est dans l'homme et la femme. Alors, je vous donne maintenant, simplement, je ne veux pas avoir le temps de les développer, mais les pistes de ce qu'il faudrait travailler encore. D'abord, il faudrait regarder dans le Christ. Comment le Christ n'est pas une créature. Son être est divin. L'existence de Jésus est divine. Mais son âme est créée. Il est le premier-né de toute créature. Ça veut dire qu'il est homme. Mais l'existence de cet homme est divine. Vous voyez, en Jésus, il n'y a pas une façade humaine et puis derrière, vous creusez, il y a Dieu. Ça serait trop facile, ça. Ce ne serait pas humain ni divin. Jésus est homme dans ce qui. Vous voyez, dans sa.
En revanche,
oui.
Il a deux natures, une nature humaine et une nature divine.
Tout à fait, oui, il est naître du côté de la nature. C'est pour ça que je dis il est homme. Mais l'existence de cet homme est divine.
Oui, mais moi, j'arrive jamais à distinguer quand vous parlez de l'être en tant qu'existence.
Oui.
En tant
que... mais pour l'instant, je ne les distingue pas. Je les ai pas distingués. Depuis le début, je ne les distingue pas.
Ah oui, c'est un peu...
c'est volontaire. Non, c'est toujours. C'est, je ne les distingue pas. Je regarde l'existence comme ça. Je ne regarde pas l'existence du côté existentiel. Je regarde l'existence que je rejoins concrètement de manière toute simple. Non, l'âme du Christ, présentement, elle est créée. Oui, bien sûr. L'incarnation, c'est ça. Le Verbe s'est fait chair. Il a été conçu de la Vierge Marie. Bien sûr que oui. Bien sûr qu'elle n'existait pas, exactement comme nous. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le premier-né avant toute créature? Il n'est pas né avant tout le monde. Qu'il est né en l'an zéro. Donc au moment d'Abraham, Jésus n'existait pas dans son humanité. Dans sa personne, le mystère du Verbe est éternel. Son être divin, mais son sa réalité humaine, elle commence d'exister dans le temps. Là aussi, il y a une alliance qui est très impressionnante. Oui. Oui.
Même s'il est homme, donc il est corps et âme, mais c'est quoi qui préexistait qu'il a en plus
de son existence. Son être est divin, et c'est l'être du Verbe, et c'est l'être de Dieu. Ce que dit Saint Jean quand il dit ce que nous avons touché du Verbe de Dieu. C'est toute la différence avec l'Eucharistie. Quand Jean reposait sur la poitrine du Christ, il entendait le Verbe de Dieu. Si son cœur battait. Alors que quand je touche l'hostie, je ne touche avec ma main que l'apparence. Je ne touche pas le corps du Christ. Mais je rejoins à travers ce toucher la présence du corps du Christ, par la foi. C'est pour ça que saint Paul dira que la divinité habite corporellement dans le Christ. L'existence du corps du Christ est divine. Mais son corps, dans sa constitution, demeure humain. Le sang de Jésus, il avait un groupe sanguin. Oui, Eric.
Si l'existence du Christ était déjà présente avant qu'il n'existe sur Terre,
oui.
Bon, il en est de même pour nous.
Non. Parce que ce n'est pas l'existence du Christ comme homme qui est éternelle, c'est l'existence du Christ comme Verbe de Dieu.
Alors que la nôtre,
voilà, elle a commencé qu'à un moment. Alors ensuite, ce qu'il faudrait regarder, c'est comment la création, précisément à son sommet, l'œuvre de création, à son sommet dans le Christ. Le Christ est au sommet de la création. Le chef-d'œuvre de la création de Dieu, c'est le corps du Christ. C'est le Christ. Oui, c'est le premier-né dans l'ordre de l'éminence, pas dans l'ordre du temps. On peut dire la même chose d'ailleurs de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception, c'est sous un certain aspect le sommet de la création aussi. Mais la différence, c'est que dans le Christ, la création s'achève en Dieu. Mais je dirais, la procréation n'est que l'annonce prophétique d'une certaine manière du mystère de l'incarnation. Dans la procréation, il y a une coopération entre l'éternité et le temps. Dans l'incarnation, il y a un achèvement de l'humanité en Dieu. Le corps de l'homme entre en Dieu par l'incarnation. Alors, j'y comprends rien, c'est pas la question. Enfin, je veux dire, je suis plus sur le même registre que sur le registre de la création. Là, je suis dans le registre de la foi, c'est-à-dire que mon intelligence croyante, je dirais, elle fonctionne beaucoup plus pauvre encore que pour parler de la création.